Radio Foot International.
Igor Strauss.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot International, version estivale. Vous entendez le bruit des vagues. Ils nous font venir au stade, nous font vibrer, rêver, chanter. Sans eux, le football n'aurait sans doute pas le même intérêt. Ils, ce sont les dribbleurs, joueurs de génie, rois de l'esquive, qui inventent match après match des nouveaux gestes et s'adaptent aux situations les plus improbables. Radio Foot International souhaite donc rendre hommage à tous ces joueurs d'exception pour qui le football est avant tout un jeu de gardien. Garrincha à Socrates, de Valdo à Ronaldinho, sans oublier Pelé, Messi, Maradona ou Zidane. Nous vous proposons une plongée dans l'histoire du dribble entre un grand pont et fin de frappe.
Bien, je ne sais pas si nous sommes à l'antenne. Je n'en ai pas la moindre idée.
Si, nous sommes à l'antenne et nous recevons deux écrivains aujourd'hui. Olivier Guèze, auteur de L'éloge de l'esquive chez Grasset. Bonjour Olivier Guèze.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous. Et Paul Fournel, auteur de nombreux ouvrages dont Anctil tout seul au seuil et du texte sur le footballeur Antonin Panenka pour l'exposition Football de légende, une histoire européenne à l'Hôtel de Ville à Paris. Bonjour Paul Fournel.
Bonjour.
Quel est votre plus beau souvenir de football pour vous, Paul Fournel?
Allons. Je suis né en 1947 à Saint-Étienne. Racontez-moi quel autre souvenir de football je pourrais avoir que l'épopée des Verts, bien sûr. J'étais à Paris à ce moment-là et je redescendais voir tous les matchs. J'ai suivi tous les matchs et j'étais pas le seul, hein. Je voyais dans les tribunes, il y avait Julien Clerc, il y avait des tas de gens.
Avec les cheveux longs, Julien Clerc, j'imagine,
ça,
à l'époque.
Bien sûr, qui descendaient pour voir.
Il n'y avait pas le TGV.
Non, bien sûr que non, on descendait pas en TGV, on descendait en voiture, et s'il le fallait même, on pouvait faire une escale à Roanne pour manger chez Trois Gros, en route.
Par exemple,
et au hasard. Et donc, c'était cette période absolument merveilleuse, quoi, celle de tous les grands verts de la grande époque, qui était aussi quasiment l'équipe de France. Donc, ça faisait vraiment, c'était sympa, on les voyait tous, ils étaient tous là, et c'était vraiment un moment, ça a été un moment formidable, et un moment sur lequel la ville vit encore aujourd'hui.
Et oui, tous les Saint-Étienne s'en rappelle encore, puisque malheureusement...
Tous les bistrots s'appellent les poteaux carrés, les hôtels s'appellent des poteaux carrés. Enfin, on retrouve toute cette épopée et qui est encore très présente dans la ville.
Votre plus beau moment à vous, Olivier Guèze, laissez-moi deviner, c'est le but d'Eder lors du match Brésil-Union soviétique pendant la Coupe du Monde 82, c'est ça?
C'est vrai que
je me trompe.
C'est vrai que j'en parle dans mon bouquin de ce but. Moi, c'est la première Coupe du Monde que j'ai suivie. J'avais 8 ans, c'était en 82.
Avec Socrates qui laisse passer le ballon entre les jambes, quand même, magnifique.
C'est une action absolument légendaire où, en fait, étrangement, c'est un dribble collectif, en fait. C'est l'équipe du Brésil qui décide de se jouer de la défense soviétique. Et effectivement, Socrates a des yeux derrière le dos, sans qu'Eder est là. Et Eder marque d'une frappe purissime dans la lucarne de d'ACF, c'était incroyable. Et sinon, moi, tout simplement, je crois, mais ça date à peu près de la même époque, c'est tout simplement le premier match que j'ai vu. Moi, j'ai grandi à Strasbourg et c'était le premier match à la Méno. Je crois que ça devait être en 82 aussi. Donc, j'avais toujours 8 ans. Et j'avais été très, très, très impressionné. J'ai pas eu de chance parce que la grande équipe de Strasbourg, c'était la fin des années 70, mais celle-là, je l'ai ratée. Ah,
voilà. Eux aussi, en tout cas, ils ont aimé la Coupe du Monde en 82. Ce sont nos deux consultants du jour, Nabil Djellit et Xavier Barré. Bonjour, messieurs, comment ça va?
Bonjour, j'étais un peu trop jeune pour regarder cette Coupe du Monde. En tout cas, elle a un souvenir extraordinaire dans ma famille parce que c'était l'année où l'Algérie participait pour la première fois à un mondial. Et je crois qu'on va parler de quelques dribbleurs. Et je peux vous dire qu'il y en avait quelques-uns, Assad, Daleb, Madjer
et donc, compagnie.
Voilà, j'ai revu cette fameuse cassette VHS qui a traîné dans toutes les familles algériennes.
Contre l'Allemagne.
où l'Algérie s'est imposée 2-1. Voilà le souvenir que j'ai de 82.
Et vous, Xavier?
Bonjour, Igor. 82, oui, bien sûr, je m'en souviens très bien. Et notamment les souvenirs qu'évoquait Olivier Guèze de ce fantastique Brésil-URSS. Les Soviétiques qui menaient 1-0 et les Brésil qui arrachent la victoire en fin de match. Les dribbleurs, je crois qu'on va en parler après, non?
On va en parler après. C'était juste pour une petite mise en bouche.
Bon, je vous laisse pas, bon esprit, hein, on met pas le pied. Convivial, tranquille. C'est fair play, exactement.
Oui, ce sera convivial évidemment, mais avant de s'intéresser à notre sujet du jour, voici les trois infos du jour et on commence avec l'euro des moins de 19 ans, Nabil. Ouais. La France qui a battu hier les Pays-Bas 5-1 avec un triplé d'Augustin et un doublé de Mbappé. La France qui retrouvera le Portugal en demi-finale,
Une demi-finale extrêmement intéressante. Ils ont surclassé les Pays-Bas, notamment un petit numéro 10 d'origine marocaine aux Pays-Bas qui est un fin dribbleur qu'ils ont bloqué, notamment grâce à Luka Tuzar et Harit, un petit jeune qui joue à Nantes, qui est extrêmement intéressant. Et ce qui fait vraiment, on va dire, le panache de cette équipe de France, c'est leur doublette d'attaque. Georges Kevin Augustin, qui a marqué un triplé, qui appartient au Paris Saint-Germain, qui pourrait être prêté. Et surtout, surtout, puisqu'on parle de dribbleur, un garçon qui est extrêmement explosif, qui pourrait être un Neymar français dans quelques années. Je veux pas lui porter la poisse, c'est Mbappé qui appartient à Monaco, qui a été déniché dans les quartiers de la région parisienne et que le PSG regrette énormément d'avoir raté.
Voilà. Oh bah, le PSG, on a loupé beaucoup des joueurs. Oui, Xavier.
Oui, juste pour rappeler que cette génération est donc d'ores et déjà qualifiée pour la Coupe du Monde des 20 ans qui aura lieu l'an prochain en Corée du Sud. Et la Coupe du Monde des 20 ans 2013 avait été gagnée par la France avec Pogba, Kondogbia, Lucas Digne et tout un tas de joueurs qu'on espère revoir. Certains sont déjà en équipe de France et d'autres peut-être y arriver.
Andrei Shevchenko, nommé sélectionneur de l'Ukraine. Et cette question, les grands joueurs font-ils forcément de grands sélectionneurs, Xavier Barret?
Non, non. Même c'est même
et assez rare. On a beaucoup d'exemples, hein, Platini et compagnie.
Oui, mais Platini, sélectionneur, ça n'a pas été forcément un grand succès.
Il
a été
non, Maradona non plus.
Maradona non plus. Il y a deux très grands joueurs qui ont été des grands sélectionneurs, c'est Beckenbauer.
Mais il a gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant que sélectionneur.
Et Cruyff comme entraîneur. Mais sinon, c'est assez rare. Hein,
on peut rajouter Zidane maintenant. Il a gagné la Ligue des Champions au bout de 6 mois. Je connais
mais c'est pas une équipe nationale.
Non, on va le laisser encore.
Olivier Guès, ça vous fait sourire, vous? Quel est votre souvenir de grand joueur devenu grand entraîneur?
Non, ben c'est pareil. Effectivement, Beckenbauer et Cruyff qui ont été des entraîneurs extraordinaires. Mais sinon, il n'y en a pas tant que ça. Là, je pensais à Antonio Conte, mais Conte n'a pas été un joueur extraordinaire. C'était un très bon joueur. Mais en fait, on se rend compte, c'est souvent les meneurs d'hommes, souvent des milieux qui ont été défensifs, qui en fait,
c'est vrai, on le voit avec
Deschamps, de grands entraîneurs.
Alors que les Richcard, les Hadji,
Diego
Simeone,
il a raison. Les
grands joueurs, en fait, n'ont pas l'habitude de travailler, puisqu'ils ont le don, ils ont le talent. Donc, ils n'ont pas besoin de travailler pour s'exprimer sur un terrain. Or, tous les entraîneurs vont vous dire, quand on est à ce poste, on a besoin de travailler. C'est un boulot de folie. On bosse pratiquement 24 heures sur 24. La nuit, ils pensent aux équipes qui vont aligner le lendemain, aux rendez-vous qu'ils ont. Donc, un grand joueur qui n'a pas l'habitude de travailler peut pas être un grand entraîneur.
Bon, les grands joueurs, c'est inné. On va y revenir avec vous, Olivier Guès, évidemment, en évoquant tous ces nombreux joueurs brésiliens qui avaient ça dans le sang, le dribble, la feinte, l'esquive. Dernière info du jour, nommé lundi conseiller technique du nouveau sélectionneur du Nigeria, Salisu Youssouf. Paul Le Guen ne devrait pourtant pas collaborer avec les Super Eagles. Comment on explique ce revirement, Nabil Djellit?
Il collabore ou il collabore pas? Il est conseiller technique, c'est
il
ça?
Il devait être conseiller technique et finalement il a annoncé que non.
Moi je l'ai croisé là pendant l'Euro puisqu'il était consultant sur l'émission de l'équipe 21. Et je le sentais tangent, il savait pas trop, il s'était renseigné un peu aussi sur les conditions de vie au Nigeria qui sont absolument pas simples. Et il y a un autre élément qui est à prendre en compte, mon cher Igor, c'est le tirage des éliminatoires à la Coupe du Monde. Le Nigeria est tombé dans le groupe de la mort avec le Cameroun.
Il n'y a pas de mort au football, il faut arrêter avec cette expression. Avec
un groupe difficile.
Un groupe extrêmement relevé, pimenté, qui serait bien plus relevé que certains groupes qu'on a vus à l'Euro, avec le Cameroun, l'Algérie et la Zambie et le Nigeria, et je pense que ça a dû le refroidir.
Affaire à suivre, donc.
C'est une relation d'amour, parce que le ballon, c'est sa chose. Il lui appartient. Il lui donne. C'est un échange permanent entre les deux. Son pied, sa caresse. Son pied droit, son pied gauche. Son corps qui ondule. Il envoûte le ballon.
La sublime voix du comédien Jean-Louis Trintignant récitant un texte de Roger Lemaire. Ça ne s'invente pas, Roger Lemaire qui parlait de Zinedine Zidane. Paul, ça vous fait rire, vous, Nabil Djellit. Paul Fournel, vous êtes sensible, vous, à la beauté du geste, à la feinte, le dribble?
À la beauté de la phrase, vous
la beauté
dire.
De la phrase, effectivement.
Je pensais, oui. Ou de la voix, non? Oui, bien sûr, c'est la même chose. Je suis sensible à la beauté du dribble, sinon... Alors, à quoi serais-je sensible?
Sinon, vous ne regarderiez pas le foot?
Par exemple, oui. Non, mais c'est vrai, c'est un des plus beaux mouvements, un des plus intéressants à essayer d'apprivoiser. Puis le dribble, c'est l'homme. Il y a pas de doute, il y a pas deux dribbles identiques et les joueurs lorsqu'ils ont trouvé leur manière de le faire, c'est leur identité, c'est leur image, c'est d'ailleurs ce qui risque de leur jouer des tours à terme.
C'est le moment du face-à-face, un peu comme deux boxeurs l'un en face de l'autre, c'est ça?
C'est un moment de vérité et c'est un moment d'excellence, donc il y a tout pour faire un spectacle.
Nabil Djellit.
Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je suis heureux d'être là parce que je suis heureux d'être entouré de gens qui aiment le dribble. toute ma jeunesse, j'ai entendu lâche le ballon. Je plaisante un peu, mais oui, c'est un peu l'idée. L'idée, c'est de contourner un adversaire. Puis moi, je vous le dis honnêtement, il y a un côté aussi peut-être un peu jouissif à prendre le dessus. Quand on parlait de match de boxe, c'est un peu ça. C'est un tête à tête. C'est un one to one, comme on dit. On peut pas se cacher. Il est là, il est devant vous. Donc, soit vous le contournez avec votre maestria, soit vous attendez que lui vous donne un signal par un geste de son corps pour partir dans un sens ou dans un autre. Et moi, je trouve que vous parliez en exergue de cette émission de ces joueurs qui nous donnent envie d'aller au stade. Moi, j'attends que ça. C'est-à-dire que là, j'ai vu que Ben Arfa avait signé au PSG. J'aime pas le PSG, mais c'est pas le.
C'est pas grave. Vous irez voir les matchs au parc.
Mais j'attends juste un truc, c'est que le ballon arrive à Ben Arfa et que Ben Arfa d'un geste fasse lever le stade. Voilà, c'est ça le football.
Mais c'est ça le football exactement. Olivier Guez, dans votre livre, donc l'éloge de l'esquive, vous revenez sur l'origine du dribble. On va y revenir bien évidemment. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au dribble? C'est comme vous le disiez tout à l'heure, des joueurs de la trempe de Socrates pendant le Mondial 82. Comment est venue cette passion pour le dribble et les dribbleurs?
Socrates, l'équipe de 82, voilà, ce sont des souvenirs d'enfants et il y a quelque chose de très important. Il y a un lien à l'enfance, au football. Non, plus fondamentalement, on voit que le football est quand même de plus en plus scientifique depuis plusieurs décennies. Et finalement, la seule chose qui permet de dépasser un peu ce côté scientifique, ces schémas de jeu, ces défenses extrêmement regroupées, c'est un petit bonhomme qui, à un moment, en fait, va décider de faire la différence, va essayer d'éliminer ses adversaires et qui va permettre de créer des décalages. Et donc, c'est ce qui reste finalement encore d'instinctif dans le football. Ouais. Par ailleurs, il se trouve donc qu'il y a 2 ans, la Coupe du Monde a eu lieu au Brésil. C'est un pays que je connais bien et qui m'intéresse beaucoup. Et je trouvais fascinant, finalement, qu'on associe l'image du Brésil à un certain type de football qui était vraiment lié à cette science du dribble. D'ailleurs, c'est assez étrange d'associer science et dribble, parce que justement, le dribble n'est pas une science.
Dribble, c'est l'instinct, c'est là.
Voilà, mais quelque part, seulement. Au Brésil, on a construit le football sur cette technique du dribble. Mmh. On va parler de l'histoire, comment c'est venu et qu'est-ce que ça signifie. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai envisagé ce livre, L'éloge de l'esquive.
Bah alors, l'histoire, parlons-en, justement. Et pour la comprendre, pour comprendre l'histoire du dribble, eh bien, il faut comprendre l'histoire du Brésil et le contexte de l'époque. Le Brésil, qui est le dernier pays à abolir l'esclavage, c'est en 1888. Mais... même après cette date, eh bien, les joueurs noirs ne sont pas autorisés à jouer dans les clubs. Du coup, eh bien, certains joueurs métis rusent. Et c'est extrêmement amusant ce que vous citez dans votre livre.
Oui, complètement. Il y a plusieurs cas de joueurs très intéressants au tout début du XXe siècle. En fait, le football arrive au Brésil exactement 6 ans plus tard, après l'abolition de l'esclavage. Et comme vous l'avez dit, il reste les blancs ne se mélangent pas aux noirs. Et le football, au début, est un sport aristocratique, puisqu'on copie en fait la bourgeoisie britannique qui a importé le football au Brésil. Donc, ces joueurs métis ou ces joueurs noirs qui ne peuvent pas jouer avec les blancs, au fur et à mesure, ils vont essayer de s'insérer finalement dans ce jeu de cette bourgeoisie blanche, notamment de Rio, sauf qu'ils ont peur de toucher un joueur blanc. Et ils savent que s'ils touchent un joueur blanc, ou si un joueur blanc les touche, ils vont être sûrs d'être sanctionnés. Et donc, en plus, ces joueurs noirs ou métis, à l'époque, sont physiquement, entre guillemets, inférieurs aux joueurs blancs, qui sont mieux nourris, mieux entraînés. Eux viennent des quartiers défavorisés. Et donc, ils vont inventer tout un système de feintes de manière à éviter le défenseur blanc. Et c'est comme ça que le dribble commence au Brésil. Alors, je ne dis pas que le dribble a été inventé au Brésil. À partir du moment où on a un ballon, c'est-à-dire on est en face à face avec son copain quand on a 6 ans, on veut le passer. Donc, le dribble a commencé avec le football. Mais au Brésil, il a une autre signification et il y a toute une symbolique autour de ce dribble au Brésil.
Mais vous parlez d'ailleurs dans votre livre, alors pour s'amuser, il y a Carlos Alberto qui joue à Fluminense et lui, il est métis, il s'enduit le visage de poudre de riz pour paraître plus blanc. D'ailleurs, Fluminense, maintenant, on met de la poudre de riz lors lors des grands matchs.
Oui, on balance du talc encore sur la pelouse pour porter bonheur à l'équipe du Fluminense, encore aujourd'hui.
Et puis, il y a la plus grande...
Plus d'un siècle.
La première star du Brésil, Arthur Friedenreich. Un métis également. Voilà. Parlez-nous un petit peu de ce joueur.
Alors, Friedenreich, comme son nom l'indique, son père est d'origine allemande, mais sa mère est une lavandière noire, donc c'est un métis aussi.
Ça a donné 7 ans en 2014.
Et c'est vrai, mais Friedenreich a dû se retourner dans sa tombe. Et Friedenreich est le joueur qui a marqué le plus grand nombre de buts dans l'histoire du football. Et donc ce
1329,
joueur,
pour être précis.
Voilà, absolument, le chiffre que je cite dans le bouquin que j'avais oublié. Et donc Friedenreich...
Je l'ai lu le bouquin, rassurez-vous.
Je vois ça. Friedenreich se lissait les cheveux, en fait, parce qu'il avait une chevelure un peu crépue, pour pouvoir jouer avec ses petits camarades. Et donc, à la fin des années 1910, au début des années 1920, pardon, on l'appelle le Tigre. Et c'est lui, en fait, qui va permettre au Brésil, si ma mémoire est bonne, de remporter sa première Copa América. Et la suivante a lieu en Argentine, je crois que c'est en 1920. Et le Brésil, en fait, ne l'emmène pas parce que, justement, pour des raisons raciales, l'Argentine ne veut pas de joueurs noirs ou de joueurs métis, et le Brésil va perdre. Et une fois qu'il est réintégré, le Brésil va à nouveau remporter la Copa América. Et donc finalement, Friedenreich est un petit peu le pionnier de ce football métis qui va définir le football brésilien à partir des années 30.
C'est ce qui deviendra le Joga Bonito, on va y revenir évidemment. Lui, il a donné son nom à un geste technique incroyable réalisé pendant le championnat d'Europe des Nations en 1976. Et Paul Fournel, l'un de nos invités, lui a consacré un texte pour l'exposition à l'Hôtel de Ville, Football de légende, une histoire européenne.
Antonin Panenka est un type au poil. Bon garçon paisible, moustache brune, gros culot, mais aussi grosse finesse. À l'instant même où cette photo est prise, un truc bizarre lui passe par la tête. Il se dit que le gardien allemand, Sepp Maier, va anticiper son pénalty en plongeant à droite ou à gauche. Il a donc une chance sur deux de rater son coup. Et il décide de se donner toutes les chances en anticipant l'anticipation. Il va tirer au milieu, à l'endroit exact où le gardien ne sera plus. Mollement, en cloche. Il a tout le temps. Ce petit coup de génie qui va permettre à la Tchécoslovaquie de gagner le championnat d'Europe des Nations en 1976 fera sa gloire et sa postérité. Son nom deviendra commun, mais lui restera inoubliable. Il n'y a pas d'autre figure dans le football qui porte le nom d'un joueur. Higuita n'a même pas donné son nom au coup du scorpion qui fit sa gloire en 1995. Mais la Panenka, tout le monde la connaît sous le nom de son créateur. Les gardiens, grâce à lui, doivent aujourd'hui anticiper de trois façons. Ils s'en méfient et quand il leur arrive de participer comme canonnier à la séance de tir au but, ils s'y adonnent volontiers. Ils savent de quoi ils retournent. Curieusement, ils ratent souvent leur coup, comme Landreau en Coupe de la Ligue ou Lucas Zidane en finale de l'Euro des moins de 17 ans.
Avec la très belle voix de Pierre Vallée, ce geste d'Antonin Panenka aurait pu être celui d'un Brésilien, Paul Fournel.
Oh, ben oui, mais il n'y a pas de raison. Il aurait pu être aussi celui d'Antonin Panenka. C'était un beau joueur. Et il n'y a pas de raison. Et laissons à son créateur le bénéfice de cette création.
Mais c'est vrai que rares sont les joueurs qui ont donné leur nom à un geste technique.
Oui, il est presque le seul. Ben, y a Majer aussi maintenant. Qu'est-ce qu'il y a encore?
On parle d'une roulette à la Zidane.
Il y a quelques-uns quand même. Après, nous, quand on était gamin, là, au Cocha, là, qui faisait au Parc des Princes. Sauf que c'est pas mondialisé, entre
guillemets. Voilà, c'est ça, c'est pas bon.
Il y avait le gardien colombien Higuita qui faisait le coup du
scorpion. Le coup du scorpion, mais il s'appelle le coup du scorpion.
On l'appelle.
Et plus récemment, la Ronaldinho, extérieur-intérieur, flip-flap.
Alors le flip-flap, on le verra expliqué tout à l'heure.
Mais ça a déjà un nom, en fait. Hein. Ouais, c'est un peu comme le scorpion. Ouais. Ça a déjà un nom, donc il n'y a pas besoin de le redonner derrière le nom.
C'est le vrai génie de Panenka.
Alors vous parlez de quoi? Oui, c'est le flip-flap ou l'élastico, vous parlez dans votre livre.
Exactement. C'est Rivellino qui avait inventé, alors là pour le coup, mais on l'appelle pas non plus ça,
Rivellino, superbe dribbleur de l'époque, c'est le Brésil des années 70,
l'immense Brésil des années 70.
Pelé, Jairzinho et compagnie.
Il était un peu plus jeune, lui, il arrive dans l'équipe des années 70.
Il arrive après Garrincha,
il joue jusqu'en 70, je crois qu'il est à la Coupe du Monde 78 encore, si ma mémoire est bonne. Donc c'est un petit ailier moustachu et qui était le roi du double contact.
C'est quasiment imparable quand c'est réussi, c'est imparable.
Bon, il faut regarder sur Internet les flip-flaps de Rivellino, c'est génial.
C'est génial à suivre. Messieurs, vous restez évidemment avec nous. On se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes après le rappel des titres. À tout de suite.
Je n'ai rien d'autre à vous annoncer et par conséquent, je vous rends l'antenne à la maison de l'ORTF.
RFI.
Rien ?
Bon, à la sortie, accélération et frappe, hein. Bien compris, hein.
Radio Foot International.
Accélération, oui. Ah. Igor Strauss. Ah. Accélération, oui.
Bienvenue, si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de Radio Foot International, version estivale. Aujourd'hui, nous célébrons les dribbleurs, nous faisons l'éloge de l'esquive avec nos invités, les écrivains Paul Fournel et Olivier Guèze, et nos deux consultants du jour, Nabil Djellit et Xavier Barret.
Aimez-vous les conduites de balle ?
De frappe de Valdo sur le troisième but du PSG contre le Real de Madrid est quelque chose que je ne dirai jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frappe et tout le monde est par terre. Ça, c'est magnifique.
Socrates est parti à grandes enjambées et c'est pas une masse à faire. Attention ! Et but de Socrates ! Ah, c'est encore une action à se lever. D'ailleurs, le public du parc applaudit.
Socrates, il était un maverick. Il est presque un dieu fou.
Et puis, il y aura tous les autres, les descendants des triples champions du monde, du football au rythme de samba, capables de faire valser n'importe quel adversaire.
Il n'y a rien, il n'y a pas d'obligation. Il y a obligation de faire ce que l'on veut, quoi, avec le ballon. Et ça, c'est bonheur pur, ça.
C'était l'archive du jour de Guillaume Ploquin avec Valdo, Socrates et Zidane, rien que ça. Olivier Guèze, au Brésil, le dribble, c'est un mélange de samba, de capoeira, de ruse, d'entourloupe, écrivez-vous. C'est la naissance au début du 20e siècle, je vais y arriver, du malandro. Expliquez-nous ce concept du malandro.
Alors, malandro, c'est un personnage assez fascinant qui apparaît à Rio à la fin du 19e, au début du 20e siècle. En fait, c'est un esclave ou un fils d'esclave qui se retrouve dans la grande ville, dans la grande capitale du Brésil, puisque Rio est la capitale du Brésil à l'époque. Et cet homme, en fait, ne peut compter que sur lui-même pour réussir. Et donc, c'est un espèce d'escroc, mais qui ne peut pas aller trop loin. C'est-à-dire qu'il est toujours à la limite de la loi, mais il ne franchit pas, en fait, cette limite-là. Et quelque part, c'est un séducteur aussi, il aime les bons restaurants, il aime les jolies femmes, et donc, en gros, il essaye toujours de tromper son adversaire. Et quelque part, le dribbleur est vraiment le malandro du football. C'est-à-dire, c'est aussi un petit bonhomme qui, a priori, vient d'un milieu plutôt défavorisé, qui se retrouve contre des joueurs plus grands, plus costauds, et qui n'a qu'une solution, c'est les tromper. Et donc, dans la tradition brésilienne, le dribbleur est vraiment vu comme le malandro contemporain sur un terrain de football. C'est quelque chose qui est très fort, notamment à Rio, dans la tradition carioca.
Alors, le malandro en chef, selon vous, c'est Garrincha, Paul Fournel. Qu'est-ce qu'il évoque, ce nom, chez vous, Garrincha?
Ah bah, exactement ça. Alors là, vraiment, c'est l'art de se faufiler, l'art de ruser, l'art de duper, c'est tout ça à la fois. C'est vraiment, je crois qu'il rassemblait toutes les qualités possibles du dribbleur et toutes les facettes possibles du boulot de dribbleur.
Nabil Djellit, oui. Vous le connaissez mieux que moi, parce que. Alors, en quoi ses jambes extrêmement arquées l'avantageaient dans le dribble? Alors,
je sais pas, il va être moins lisible.
Non, parce que c'est aussi dans la légende de Garrincha, il y a cette histoire.
Il avait une polio, donc il avait les jambes arquées, une jambe plus courte que l'autre.
C'est presque comme un strabisme, en fait, ces jambes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vers quelle direction elles prennent. C'est très étrange. Moi, j'ai vu beaucoup de vidéos. Évidemment, j'étais trop jeune, j'ai jamais vu Garrincha jouer. Mais ce qui est fascinant chez Garrincha, c'est la dimension infantile, à la fois de son football, mais aussi du personnage, qui, en dehors du terrain...
Il était jugé limite simplet, hein, c'est ça?
Ouais, on peut dire ça ça. Et obsédé sexuel, par ailleurs.
Bon, ça complètement, ça on le savait. Et alcoolique sur la fin de sa vie.
Et alcoolique sur la fin de sa vie, mais ça c'est plus dramatique. Mais c'est vrai que c'est un drôle de personnage, mais les gens allaient au Maracana, puisqu'il a joué au Botafogo, c'est vraiment été l'idole du Botafogo de la fin des années 50, début des années 60. Et ils allaient au stade vraiment comme ils allaient au cirque, en fait. C'est-à-dire qu'à la rigueur, peu importe le résultat de l'équipe, il voulait qu'il gagne évidemment, mais surtout il fallait voir Garrincha. Et il y a un film qui s'appelle Garrincha, idole du peuple, d'un grand réalisateur qui s'appelle Pedro de Andrade, qui suit Garrincha en fait pendant tout un match et qui notamment suit à la fois son jeu de jambes et qui par ailleurs fait des zooms sur le visage des spectateurs. C'est absolument extraordinaire comme spectacle en fait. C'est plus que du football, c'est du spectacle à ce niveau-là.
Xavier Barret, vous Garrincha, qu'est-ce qu'il évoque pour vous ?
Alors moi j'étais un peu jeune aussi pour l'avoir joué, mais effectivement.
Oui, non, je disais pas ça pour en raison de votre grand âge, Xavier Barret. Mais...
Le seul problème de Garrincha, c'est qu'il s'est retrouvé à peu près à la même génération génération que Pelé. Il était donc et en fait, du coup, il est meilleur joueur de la Coupe du Monde 1962 parce que Pelé est blessé, il ne peut pas jouer la compétition. Sinon, il donne
deux passes décisives avant en finale, si ma mémoire est bonne.
Bien sûr, bien sûr.
C'est lui qui porte le Brésil.
Mais voilà, sa qualité,
il est un peu éclipsé.
Voilà, sa qualité est indéniable, mais il se retrouve dans l'ombre de Pelé, qui se retrouve lui l'enfant prodige à 18 ans, champion du monde en 1958 en Suède, et qu'il est encore 12 ans plus tard en 1970 au Mexique. Et donc toute cette période où le Brésil avait une génération fantastique, Pelé en sort comme le roi. Il y a des stades au nom du roi Pelé au Brésil. Et Garrincha, qui était effectivement celui qui emballait les foules, eh bien il restait un petit peu dans son ombre, mais malheureusement.
Mais je crois que c'est pas seulement lié au football de Garrincha. C'est Pelé, en fait, incarne le premier footballeur du 21e siècle, d'une certaine manière. Il est extrêmement professionnel, il gère extrêmement bien sa carrière, son image, des contrats publicitaires, qui étaient des choses absolument impensables dans le foot des années 60. Garrincha, lui, c'est encore le bad boy, c'est encore un football extrêmement amateur. Mmh. Et quelque part, il va être dépassé par le phénomène Pelé. Et en fait, Pelé est le trait d'union entre deux générations, qui est la génération des années 50, qui est encore un football assez amateur, que représente Garrincha, et un football beaucoup plus moderne, qui est celui des années 70. Et Pelé, qui commence à 17 ans en 58, n'a que 30 ans en 1970. Et c'est vrai qu'il éclipse le pauvre Garrincha, qui par ailleurs a eu d'autres problèmes. On a parlé d'alcoolisme, il a eu toutes sortes de déboires sentimentaux, il a écrasé dans un accident de voiture, je crois, sa belle-mère, si ma mémoire est bonne. Donc,
et il a épargné son père.
Voilà, il a épargné son père. Il a un autre accident, il a quitté sa femme, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Il avait
une ribambelle. On se met avec une danseuse de samba.
Voilà. Mmh. Alors que Pelé, lui, il cadenasse tout, toute l'image. C'est le Brésilien parfait, quelque part. C'est le noir qui arrive à s'imposer dans un monde de blanc, ce qui est quelque chose d'encore impensable dans le Brésil des années 50-60. Garrincha, lui, reste un petit peu le métis qui n'arrive pas à passer justement le cap qu'a passé Pelé à ce moment-là.
Alors, les Brésiliens, écrivez-vous, Olivier Guez, n'aiment pas les joueurs de devoir, les joueurs rugueux. Paul Fournel, vous, un Dunga, un Deschamps, qu'est-ce que vous en pensez?
Je les aime bien. Je les aime bien parce que c'est une face du football qui est indispensable. Et donc, ils sont des gens utiles.
Indispensable, évidemment, pour l'équilibre de l'équipe.
Mais est-ce que ce sont les joueurs qu'on aimerait voir?
Xavier Barré, est-ce qu'un Didier Deschamps aurait pu entraîner l'équipe du Brésil? Bon, ils ont eu Dunga, vous me direz, c'est
Dunga,
pas mieux.
C'est pareil, c'était l'alter ego de Deschamps.
Je pense que Dunga est bien pire que Didier Deschamps. Deschamps est beaucoup plus intelligent que Dunga.
Déjà, il s'adapte.
Et puis, c'est pas du tout la même tradition de football, justement, entre le Brésil et la France. La France a quand même une tradition, en tout cas, depuis une vingtaine d'années, d'un jeu assez défensif, assez fermé, avec des bases défensives très fortes. Peut-être pas cette année. Le Brésil, Dunga, il n'est pas le seul, a complètement dénaturé cette équipe du Brésil.
Mais les Brésiliens lui en veulent.
Pas d'ailleurs. Cette année, oui et non, parce que le seul joueur hors norme en termes de qualité technique, on l'a pas pris, c'est Ben Arfa. Donc, alors, je veux bien qu'il
soit. C'est en équipe de France.
C'est peut-être encore un autre débat. Ben Arfa, que j'aime par ailleurs énormément comme joueur, qui est effectivement un formidable dribbleur. Il y en a très peu.
C'est un des meilleurs dribbleurs d'Europe et un des meilleurs dribbleurs au monde. Mais nous, la France, on est capable de s'en passer.
Après, pour en revenir au Brésil, bon, Neymar.
Ouais, mais Neymar, le Brésil, il s'en passe pas.
Lucas, il prend.
Oui, mais il y a que Neymar aujourd'hui. Ouais. Mais pour en revenir au Brésil et à cette histoire du dribble, un joueur comme Dunga, donc qui émerge dans les années au tout début des années 90, change totalement la nature du football brésilien. Parce que après les échecs des années 80, on a parlé de l'équipe de 82 qui était peut-être la plus belle ou en tout cas l'une des plus belles après l'équipe de 70. Elle ne gagne rien. Elle se plante aussi en 86
avec les Zico, Carreca et compagnie,
voilà, qui est une génération absolument incroyable et qui étonnamment ne ramène pas la Coupe du Monde au pays.
Mais vous pensez que c'est ces deux échecs consécutifs qui vont faire le Brésil va adopter un style plus pragmatique.
J'en suis persuadé. C'est-à-dire qu'à un moment, on a considéré que la Coupe du Monde appartenait au Brésil. Et les Brésiliens se sont aussi accaparés la Coupe du Monde. En gros, ils devaient gagner une édition sur deux. Et puis, les années passant, 4 ans, 8 ans, 12 ans, 16 ans, 20 ans, etc., ils se disent, il faut qu'on change notre jeu. C'est-à-dire, il faut qu'on soit efficace. Parce que la Coupe du Monde, on l'a ramené au Brésil. Et ça donne naissance à cette équipe de 94, qui compte quelques beaux joueurs comme Romario ou
Bebeto. Mais on sacrifie Rai pour rajouter un milieu défensif.
Complètement. Et jusqu'à la catastrophe d'il y a 2 ans. Où là, on a vraiment une caricature à la fois d'une équipe qui n'est pas faite pour défendre, mais qui n'a pas de talent offensif.
Ouais.
O malandro na dureza senta à mesa do café, bebe gole de cachaça, acha graça e dá no pé. O garçom no prejuízo, sem sorriso, sem freguês, de passagem pela caixa, dá uma baixa no português. O galego acha estranho que o seu ganho tá um horror. Pega o lápis, soma os canos, passa os danos pro distribuidor. Mas o frete vê que ao todo há engodo nos papéis. E pra cima do alambique dá um trambique de 100 mil réis. Usineiro nessa luta grita ponte que o partiu. Não é idiota, trunca nota, lesa o banco do Brasil.
Chico Buarque au Malandro dans Radio Foot International, version estivale, avec nos invités, les écrivains Paul Fournel et Olivier Guez, et nos chroniqueurs Xavier Barret et Nabil Djellit. Messieurs, vous pensez qu'avec le football business d'aujourd'hui, les intérêts énormes qu'il y a dans le foot, on va brider les créateurs, les dribbleurs, ceux qui peuvent faire basculer un match d'un coup d'éclat? Vous parlez de Ben Arfa, de Neymar.
Bah
oui,
non,
Xavier Barret.
On les a bridés. Et ils sont en train de revenir.
Oui, c'est exactement ça.
Parce qu'aujourd'hui, les systèmes de préparation sont tellement scientifiques. Les équipes jouent presque toutes pareilles. Les joueurs ont avalé des vidéos avant. Ils savent comment joue l'autre, etc. Donc, tout le monde est en place. Et à la limite, le foot, c'est du baby-foot. Voilà, les joueurs sont là et les ballons vont passer comme ça. Donc, les seuls qui peuvent bousculer ces systèmes mis en place aujourd'hui, c'est les dribbleurs. D'où effectivement, et on l'a vu ces derniers mois avant l'Euro, la remontée en flèche de joueurs comme Kingsley Coman, comme Paul Georgentep, même si malheureusement il était blessé, le petit Moussa Dembélé.
Sadio Mané.
Voilà, donc
on les écoute en Afrique.
Je parlais des joueurs de l'équipe de
Merci,
France
Xavier.
parce qu'effectivement, ce sont des joueurs dont on a besoin aujourd'hui dans une équipe pour faire basculer un match.
Mais vous en parliez de Nabil Djellit dans la première partie de l'émission. C'est vrai que quand on est petit en centre de formation, on entend « joue vite, passe ta balle ». Ça, c'est pas une incitation à dribbler et à l'exploit personnel.
On va dire qu'en France, à un moment, il y a une forme de conservatisme sur ce genre de profil, parce qu'on s'est calé sur la victoire de 98, avec effectivement un socle plutôt athlétique et physique. Moi, je connais pas mal de joueurs qui ont été recalés de centre de formation avec des profils comme ça. Et l'exemple le plus parfait, c'est Riyad Mahrez, qui est devenu meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Il n'est pas passé par un centre de formation. On lui a jamais donné vraiment sa chance. Pourquoi? Parce qu'il était trop frêle, trop maigre, et puis son style de jeu, c'était
mais
juste.
Ça, il y en a beaucoup, Antoine Griezmann refusé dans les centres de formation également.
Également, sauf que c'est comme par hasard, ces gamins-là réussissent mieux à l'étranger. Griezmann, c'est l'Espagne qui l'a un peu façonné. Je pense aussi à Brahimi, qui a été meilleur dribbleur de la Ligue des Champions 2 saisons consécutives, qui s'est refait la cerise en Espagne à Grenade et ensuite à Porto. Mais Xavier a raison, parce que je pense que pour casser les lignes sur les 30 derniers mètres, il y a un retour vers ces joueurs. Il y a aussi un retour de la stat du dribble. Ça n'existait pas avant. Oui. Maintenant, vous avez la stat du dribble. Par exemple,
le nombre de dribbles réussis.
Par exemple, moi, je suis ça de près. J'avais même fait des papiers là-dessus. À un moment, en Espagne, Brahimi était devant Messi, Ronaldo, parce que il tentait 12 dribbles, il en réussissait 7.
On sait qu'aujourd'hui, par exemple, en Turquie, un joueur comme Atif Çavuşoğlu est à égalité avec Karesma, les grandes vedettes, Unani, par exemple, voire devant.
Après, il y a différents types de dribbles. dribbleurs. Après, c'est des typologies. Vous avez les dribbleurs en puissance, vous avez les virtuoses, vous avez des joueurs fins.
Les moustiques. Mais,
voilà. Les moustiques. Oui. Léonidas.
Non, mais c'est ça.
Je pense qu'il y a. Il ne faut pas Olivier non plus Guess. Oublier que. Le football, c'est du show business aujourd'hui. Ouais. Et donc, après des années, voire des décennies, quelquefois vraiment, de purges de matchs extrêmement défensifs, toute la puissance financière qui est aussi derrière le football et qui définit le football aujourd'hui, notamment dans la Ligue des Champions, on a besoin de voir du spectacle. Et donc, réémergent des joueurs qui, effectivement, n'avaient pas nécessairement leur place il y a 10 ans ou il y a 20 ans.
Je suis tout à fait d'accord
Paul Fournel,
avec
vous le rajoutez un petit mot.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Tout le monde a intérêt à avoir des dribbleurs parce que le dribble intéresse le public. Les gens ont envie de voir du dribble.
C'est beau, c'est esthétique.
Ce qui est bon pour le public, c'est bon pour le football.
Il y avait chez les dribbleurs de l'époque une forme de simplicité, d'acte irréfléchi, juste pour éliminer l'adversaire, créer des décalages. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plus d'arrogance quand on voit un garçon comme Cristiano Ronaldo, par exemple, ou pas. Non, Nabil Djellit,
vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça ? Franchement, moi, je vous comprends, d'accord, il faut être dans les valeurs et tout, mais franchement, moi, le dribble,
c'est aussi... Non, je me pose la
question. Alors, je vous le dis honnêtement, pour moi, le dribble, peut-être ça va choquer, mais le dribble, c'est aussi une manière de chambrer, ça fait partie du truc.
Mais bien évidemment, mais le dribble, c'est arrogant. C'est arrogant, c'est... Vous avez un ballon.
Oui, mais il faut que ça soit efficace. Xavier Barrel disait tout à l'heure.
Vous avez un adversaire en face de vous. Vous lui passez le ballon entre les jambes. C'est une forme d'humiliation.
C'est comme de la tauromachie.
C'est une forme d'humiliation.
C'est comme de la tauromachie.
Mais ça fait partie du jeu.
Le dribble va être apprécié s'il amène un but.
Complètement. S'il est efficace.
S'il amène en tout cas une action dangereuse.
Bien sûr.
Dribbler pour dribbler. L'entraîneur va vous conspuer et les coéquipiers vont râler aussi.
Un garçon comme Lucas au Paris Saint-Germain, lorsqu'il transperce toute la défense de l'OM, c'est vraiment pendant le derby, qu'il loupe au dernier moment, c'est quand même une action de classe qui reste dans les mémoires. Bon, ça en fait pas l'idole d'un stade parce qu'il manque le but.
Mais il y a dribble et dribble. Pour moi, le dribble, bon d'accord, tu peux enchaîner des dribbles. Bon, l'action du dribble parfait tout le temps, on n'en a pas parlé. Bon, moi, c'est 86, c'est Maradona au milieu de terrain qui vous fait tout, là.
Pour moi,
c'est fini.
Qui marque le fameux but contre l'Angleterre après la main de Dieu.
Après, pour moi, le dribble, c'est comme de la tauromachie, excusez-moi de revenir sur cette métaphore. Tu prends le ballon, tu mets le pied sur la semelle et tu regardes le gars dans les yeux. Voilà. Et il y a peu de joueurs qui sont capables de fixer comme ça et d'éliminer sur un coup de rein.
C'est très très compliqué.
Et Olivier Guez.
Pour moi, peut-être le plus grand dribble de l'histoire, en fait, c'est un ballon qui n'est pas touché. C'est Pelé contre le gardien uruguayen en 70.
Mazurkiewicz.
En fait, voilà, exactement, Mazurkiewicz.
Je suis maradonesque, vous êtes Pelé.
Mais... Non, moi, je suis très maradonesque aussi, mais pour moi, c'est
attention,
vraiment...
je vous rappelle que vous êtes brésilien, Olivier Guez, quand même.
Je ne suis pas du tout brésilien.
Je rigole.
Enfin, quoi qu'il y a pire comme insulte.
Non, mais c'est plus agréable de discuter ça que de trois milieux défensifs.
Mais c'est fascinant. Ce geste-là, en fait, où Pelé ne touche pas le ballon, mais c'est toujours la même idée. C'est-à-dire, c'est tromper l'adversaire. C'est la feinte. Et quelque part, c'est une humiliation extraordinaire sur Mazurkiewicz. Il l'embarque d'un côté et le ballon passe de l'autre.
C'est
le génie absolu parce qu'évidemment, le péché du dribble, c'est de ralentir.
Bien
l'action.
Sûr.
Et c'est son grand péché. C'est pour ça que les grands dribbleurs, souvent, ils pètent un peu les plombs au bout d'un moment parce qu'ils se regardent dribbler. Ils entendent que le public les regarde dribbler.
Pour la
et ils ralentissent l'action petit à petit. Alors qu'évidemment, le génie de Pelé, si tu touches pas la balle, tu ralentis pas la balle.
Mais on se souvient pas des mauvais dribbleurs, en fait. En fait, les vrais dribbleurs sont des grands dribbleurs, c'est-à-dire qui permettent à la fois de fluidifier le jeu, de l'accélérer et quelquefois de provoquer
donc,
un but.
Donc Zidane, par exemple.
Messieurs,
on a tous connu des mauvais dribbleurs.
Du Brésil à l'Afrique, vous en parliez, Nabil. On pourrait peut-être s'intéresser aux dribbleurs africains. Ce ne sont pas les dribbleurs qui manquent en Afrique. Alors, justement, quel est le dribbleur qui vous a marqué vous ces dernières années en Afrique?
Bah, Mahrez, par exemple.
Riyad Mahrez.
Alors non, mais après,
moi je pensais à Djedi Okocha.
Okocha, il est fantastique, mais Mahrez, j'en profite pour raconter l'anecdote. Sinon, vous m'invitez pas.
Allez-y, Nabil.
Je suis en interview l'année dernière. Je lui dis, bon, c'est vrai que c'est un gamin de la région parisienne. Donc, je lui dis, mais comment ça se passe quand tu dribbles et tout. Il a fait quand même. Je vous conseille d'aller sur YouTube et de taper Mahrez triple homicide. Il a quand même mis sur le cul trois défenseurs d'Aston Villa sur une seule feinte, en s'arrêtant et en bloquant sa course. Je lui dis, mais comment tu fonctionnes? Il me dit, c'est simple, je joue comme à la cité. Voilà. Non, mais c'est pour tout vous dire sur l'insouciance qui habite ce garçon. Maintenant, il y a des dribbleurs nigérians, ghanéens, avec une explosivité fantastique. Oui, vous avez raison de citer Okocha, mais il y en a une d'autres dans d'autres styles. Babangida, un peu dans le style de Lucas.
Oui, Babangida, ouais. Alors, ne les citez pas tous, laissez-en quelques-uns pour vos petits camarades. Vous, Xavier Barré, quel est le... Je crois
que Samuel Eto'o, au début de sa carrière, était un attaquant fantastique, il savait très bien dribbler aussi.
Et oh, il savait tout faire, Samuel Eto'o.
La constance des dribbleurs, c'est souvent d'être jeune. Parce que plus ils avancent en âge, moins ils ont le coup de rein, moins ils ont la vivacité, et plus ça devient difficile. Regardez aujourd'hui Zlatan, au début de sa carrière, c'était un dribbleur fantastique. Moi, à Paris, je l'ai jamais vu dribbler. Cristiano Ronaldo, au début de sa carrière.
Pas besoin, en Ligue 1, c'est tellement faible.
Cristiano Ronaldo, au début de sa carrière, était un dribbleur fantastique. Aujourd'hui, il ne dribble plus. L'exception, c'est Messi qui continue à dribbler.
Ils sont pas africains.
Oui, mais il est pas si vieux. Il est pas africain.
Je parlais des joueurs en général.
Paul Fournel, pour en rester sur le football africain, je ne sais pas si ce football, si vous le connaissez bien d'ailleurs, mais, quel est le joueur africain qui vous a marqué ces dernières générations?
Je ne le connais pas assez.
Georges Weah, Abedi Pelé, je vous donne des indices comme ça.
Vous pouvez dire Mekloufi, il est passé par Saint-Etienne.
Rachid Mekloufi. Ça, c'était un joueur d'exception, mais c'était un autre foot.
Salif Keita également.
Un peu moins.
un peu moins. Olivier Guez, vous, c'est vrai que le lien entre l'Afrique et le Brésil est évidemment c'est un lien très très étroit. Quel est le joueur qui vous a marqué vous ces dernières années?
Ces dernières années, je sais pas, moi, je garde un souvenir très vivace de Roger Milla, qui avait fait cette Coupe du Monde en 90 extraordinaire, qui avait illuminé, en fait, la Coupe du Monde 90, qui était assez pénible, et, je me souviens de ses danses, et je me souviens de, justement, de cette spontanéité. C'était pas un grand dribbleur, je sais même pas si c'était un très grand joueur, Roger Milla, mais c'était un formidable monsieur.
Bah, disons qu'à 40 ans, il marquait encore des buts en Coupe du Monde.
Très vite. Oui, Nabil, très vite. Quand même, le Zambien Kalou Chabouala, qui est un fantastique virtuose. Mohamed Abou Treika, l'Égyptien, qui était d'une finesse sans nom, qui est un joueur qui aurait pu faire une très grande carrière en Europe.
Qui a gagné 3 cannes de suite.
Tout à fait. Et plus récemment, et comme on nous écoute au Sénégal, il y a quand même Sadio Mané qui vient d'être recruté à Liverpool, qui est un dribbleur extrêmement fin.
D'où viennent les expressions parfois cocasses utilisées dans le football? Eh bien, pour le savoir, voici le terme technique expliqué par Jean-Philippe Bouchard, journaliste à l'Équipe et auteur des Mots du Sport.
Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens.
Un café crème. C'est une expression récente qui date des années 1970-80. Elle a été popularisée par l'ancien milieu de terrain des Verts, Jean-Michel Larquet, qui ne s'est pas privé, une fois devenu commentateur à la radio et la télé, pour la resservir à l'antenne. Le café crème désigne un dribble réussi très facilement. Souvent un double contact intérieur-extérieur qui laisse l'adversaire sur place. Un peu comme si le geste était tellement facile à réaliser qu'il aurait pu être réussi tout en prenant un café crème au comptoir. Le spécialiste de ce genre de dribble, c'était le Brésilien Ronaldinho, qu'on a eu la chance de voir évoluer au PSG entre 2001 et 2003, et qui a remporté la Coupe du Monde 2002 au Japon. Techniquement, Ronaldinho, c'était le top. Il a ainsi été sacré Ballon d'Or en 2005 alors qu'il jouait au Barça. Seul problème, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il ne buvait que du café crème et qu'il a sans doute un peu gâché la fin de sa carrière en ratant notamment complètement sa Coupe du Monde 2006.
Paul Fournel, vous le fan des Verts, le café crème, ça ne vous disait rien?
Eh ben non. C'est extraordinaire tout de même.
Hein. Eh ben vous voyez, on en apprend tous les jours dans cette émission.
Absolument. Et on en apprend tous les jours et c'est pas fini d'en apprendre.
En tout cas, Ronaldinho, lui, c'était vraiment l'archétype du malandro, on en parlait tout à l'heure.
Oui, complètement. Mais à tout point de vue, hein, c'est-à-dire sur un terrain de football comme...
Comme dans sa vie, il aimait les femmes, la fête,
la
samba.
Mais c'est ça qui est intéressant avec les dribbleurs. C'est-à-dire que le bon dribbleur, ce qu'on disait un petit peu plus tôt, c'est celui qui sait s'arrêter à temps. Alors, certains dribbleurs savent le faire, et sur le terrain et dans la vie, et d'autres se laissent complètement emporter par leur penchant. Ça a été le cas de Garrincha et de Socrates, d'une certaine manière, qui ont connu des fins très difficiles.
Ronaldinho qui vient de mettre 5 buts en match de futsal. Oui, Nabil Djellit.
Et Ronaldinho, il fait basculer l'art du dribble dans le freestyle au début des années 2000. Souvenez-vous aussi l'arrivée des publicités massives des grands équipementiers. Nike, par exemple, qui met en scène des
toute
dribbleurs.
Toute l'équipe du Brésil à l'époque.
Tout à fait.
Aussi.
Et également, il y a un truc qui rentre en ligne de compte dans l'évolution du dribble, c'est aussi le développement du foot à 5, par exemple, qui a... Vous avez aujourd'hui des joueurs, des dribbleurs comme Ben Yedder au départ, qui sont des joueurs de foot en salle, qui ensuite arrivent à s'intégrer dans le foot à 11. El Arabi, par exemple, à Caen, qui était international français de foot en salle, qui était extrêmement fin en termes de dribble. Donc le dribble peut permettre
Grenade,
aussi
qui va
à certains de se mettre en valeur, alors qu'ils ne sont pas dans les radars, et pouvoir ensuite faire une carrière.
Oui, chaque joueur... chaque jour, oui, ça, oui, on pourra en parler encore longuement. Chaque jour, je vais y arriver quand même, Xavier Barret. Chaque jour dans l'émission, un consultant nous présente son équipe improbable, celle que l'on n'attendait pas forcément. Et aujourd'hui, c'est vous, Xavier Barret. Votre équipe improbable, c'est qui?
Écoutez, Igor, vous me dites que tout est permis. Ben moi, l'équipe improbable, je vais vous dire, c'est une que j'ai vue grandir et arriver. C'est Auxerre. Auxerre en 1979, qui arrive en finale de la Coupe de France face au grand FC Nantes, qui perd d'ailleurs cette finale, 4-1 après prolongation, un triplé d'Éric Pécou. Et Auxerre, à ce moment-là, surgit de nulle part. Il y a une espèce de marabout bourguignon à sa tête,
un certain Giroud,
que personne ne connaît, ou très peu de monde. Le club est en D2, c'est un club amateur. Et puis tout d'un coup, eh bien, en deux ans, ils arrivent en première division, et derrière, ils vont atteindre la Coupe d'Europe et marquer durablement le football français pendant plus de 20 ans, un quart de siècle même, jusqu'à ce qu'ils redescendent. Je ne sais pas s'ils arriveront un jour à remonter, mais ce qui est certain, c'est que, puisque je parle d'une période que j'ai vécue, enfin en tout cas que j'ai suivie de près, l'aventure d'Auxerre, quelque part, c'est totalement improbable.
S'il vous plaît, vous quittez la pelouse. Vous pouvez partir d'ici, s'il vous plaît.
Ah, désolé, on doit quitter la pelouse. C'est la fin de cette émission. Ah oui, ça vous surprend, ça vous fait sourire, Paul Fournel. Merci Olivier Guez, merci Paul Fournel. On était ravis de vous avoir. Merci Nabil.
Merci
Xavier. Demain, nous parlerons de foot féminin. Et vous verrez que pour ces dames, la pratique de ce sport n'a pas toujours été évidente en raison du machisme de la société, tout simplement. En attendant, avec Florence Ponce et Guillaume Ploquin, on vous souhaite une excellente journée. À suivre, un nouveau journal sur la Radio du Monde.